Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, la naissance du purgatoire de l'historien Jacques Le Goff. Dès les premiers siècles, les chrétiens ont cru confusément à la possibilité de racheter certains péchés après la mort. Mais dans le système dualiste de l'au-delà, entre l'enfer et le paradis, il n'y avait pas de lieu pour l'accomplissement des peines purgatoires. Il fallut attendre la fin du XIIe siècle pour qu'apparaisse le mot « purgatoire », pour que le purgatoire devienne un troisième lieu de l'au-delà dans une nouvelle géographie de l'autre monde. Le purgatoire s'inscrit dans une révolution mentale et sociale qui remplace les systèmes dualistes par des systèmes faisant intervenir la notion d'intermédiaire et qui arithmétise la vie spirituelle. Ce purgatoire, c'est aussi le triomphe du jugement individuel au sein des nouvelles relations entre les vivants et les morts. Cette enquête suit les avatars de la naissance du purgatoire de l'Antiquité à la Divine Comédie de Dante. Cette naissance est un des grands épisodes de l'histoire spirituelle et sociale de l'Occident. La méthode de recherche de Jacques Le Goff est la volonté de faire de l'histoire globale. Le premier livre dans lequel il a systématisé cette méthode est donc « La naissance du purgatoire » en 1981. En effet, le purgatoire, ce troisième lieu individualisé de l'au-delà qui apparaît au XIIe siècle, est typiquement un objet globalisant. C'est-à-dire qu'il était bien sûr possible de l'éclairer par l'évolution de la mentalité religieuse, mais aussi en étudiant la structure sociale naissante et les représentations de l'époque. En remarquant que le purgatoire était un lieu intermédiaire dans lequel les peines devaient être calculées proportionnellement à la gravité de ce qu'on avait commis comme péché, Jacques Le Goff a tout d'abord cherché comment fonctionnait dans la société la notion d'intermédiaire, avec l'apparition du développement de cette notion dans les structures sociales, en particulier urbaines, où il y avait une nouvelle catégorie intermédiaire naissante, la bourgeoisie. Il a découvert le Moyen-Âge et cela a été une période essentielle pour la formation de notre société, de notre culture, peut-être même la plus importante. C'est en effet au Moyen-Âge que se met véritablement en place l'élément fondamental de notre identité collective, qu'est le christianisme. C'est au Moyen-Âge que l'on voit apparaître la formation de l'État et l'idée de souveraineté. C'est aussi l'époque de l'apparition de la langue française. C'est au Moyen-Âge que se mettent en place l'essor urbain et les fondations de la ville moderne. C'est au Moyen-Âge que le pouvoir devient urbain. C'est encore au Moyen-Âge que l'on voit naître les universités, ce phénomène urbain et européen, car l'Europe est née, elle aussi, dans le haut Moyen-Âge. Jacques Le Goff est né le 1er janvier 1924 à Toulon, dans le Var. Son père, Jean, né en 1878 à Brest et décédé en 1958 à Toulon, est professeur certifié d'anglais. Il enseigne à Thessalonique, Smyrne et Alexandrie. Il est mobilisé durant la Grande Guerre au sein du 10e régiment du train, puis comme interprète auprès de l'armée américaine. Jean Le Goff, marqué durant sa jeunesse par l'affaire Dreyfus, affiche des convictions républicaines et anticléricales. Sa mère, Germaine Ansaldi, est née en 1891 à Toulon. Elle est fille d'un négociant en vin, professeur de piano. Elle affiche, elle, des convictions catholiques. En 1936, alors qu'il découvre le Moyen-Âge en lisant Ivan Noé, Jacques Le Goff s'enthousiasme pour les réformes sociales du Front populaire. En 1945, après un voyage à Innsbruck, en Autriche, le Quai d'Orsay lui propose de travailler sur l'histoire tchécoslovaque. Il apprend le tchèque et travaille sur le sujet « Les origines de l'université Charles de Prague au milieu du XIVe siècle ». En 1946, il est séduit par la ville de Prague et décide de poursuivre ses études à l'université Charles de Prague de 1947 à 1948. En février 1948, il assiste au coup de Prague et à la prise de pouvoir par les communistes. Mais il ne se tourne pas vers le communisme comme c'était chose courante à l'époque pour les intellectuels. En 1950, Jacques Le Goff passe son agrégation d'histoire où il est reçu quatrième et le jury était présidé par Fernand Braudel. Il devient membre de l'école française de Rome. Il part ensuite enseigner au lycée Louis Thullier d'Amiens, puis il se rend compte qu'il ne veut pas enseigner et préfère la recherche collective. Il associe d'autres disciplines à son étude de l'histoire, notamment l'anthropologie. En 1960, il obtient un poste à la 4e section de l'école pratique d'hautes études. 2 ans plus tard, il se voit offrir un poste de directeur d'études. Il accepte car il aime la liberté de recherche et la possibilité de nombreux échanges intellectuels. Il se rend en Italie, en Allemagne, en Pologne. Il y travaille sur le développement intellectuel au Moyen-Âge. En 1960, il assiste Fernand Braudel qui travaille en histoire économique. Ceci lui permet de rencontrer des historiens étrangers, notamment des historiens polonais dans le cadre d'un échange avec l'Institut d'Histoire de l'Académie polonaise. C'est à cette occasion qu'il rencontre sa femme, Anna Dunin-Wasowicz, médecin spécialiste de psychiatrie infantile, qu'il épouse en 1962 à Varsovie. Il accède en 1969 à la direction des Annales, avec Emmanuel Leroy-Ladurie et Marc Ferraud. Puis en 1972, il devient président de la 4e section de l'École pratique d'hautes études, qu'il transforme en établissement autonome en 1975, l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS. Il y met en place un groupe d'anthropologie historique de l'Occident médiéval. Il décède le 1er avril 2014 à Paris. Un ouvrage à succès lance le purgatoire. C'est le Purgatorium Sancti Patrici du bénédictin anglais Henry of Staffle, probablement entre 1170 et 1180, presque immédiatement traduit en français par Marie de France dans L'Expurgatoire Saint-Patrice. Très rapidement, le mot, l'idée de l'existence d'un lieu portant ce nom connaissent une diffusion extraordinaire. La littérature homilétique ou les exemplats se multiplient et en sont témoins et principal véhicule. L'Église ne reconnaît et n'impose le purgatoire que dans la seconde moitié du XIIe siècle. Le premier texte officiel est une lettre du pape Innocent IV de 1254 au légat Eudes de Châteauroux en Chypre. Ce développement des discussions avec les chrétiens grecs aboutit à la reconnaissance officielle du purgatoire par le Concile de Lyon en 1274. Date que l'on peut considérer comme l'acte de naissance du purgatoire. 2 consécrations suprêmes du purgatoire au XIVe siècle, par la sublimation, Dante dans la Divine Comédie, par la dérision, Boccace dans le Décaméron. L'image du purgatoire se répand lentement et difficilement dans l'iconographie. La naissance d'une géographie de l'au-delà va de pair avec l'exploration de la Terre et le développement d'une géographie et d'une cartographie terrestre. La localisation du purgatoire se fait d'abord dans les 2 grands centres de l'imaginaire à la fin du XIe siècle. Le monde celtique, le purgatoire irlandais d'Henry of Saffre, le monde sicilien, réceptacle de l'imaginaire antique et oriental. Une rencontre décisive, le roi Arthur descend en Italie, en Sicile, des intellectuels chrétiens, au premier rang desquels Jean de Salisbury, rétablissent une continuité dans l'histoire en faisant de l'humanité avant le Christ une humanité pré-chrétienne, en attente du Christ et qu'il faut loger dans l'au-delà. Résultat, une refonte complète de la géographie de l'au-delà, avec 4 royaumes, les limbes, le paradis, le purgatoire. L'enfer. Le XIIe siècle est le siècle de l'essor de la comptabilité. Le purgatoire introduit le calcul dans la pensée de l'au-delà. Comptabilité en partie double, temps de la pénitence ou des actes pieux des vivants sur terre et durée correspondante des peines dans l'au-delà. Mesure de la longueur, de l'intensité. casuistique de l'abrégement des peines, le purgatoire saisi dans l'engrenage de plus en plus flou des indulgences. Depuis le XIe siècle et le temps des croisades, les anciens schémas binaires du manichéisme pratique et vulgaire, clercs laïcs, potentes pauperes, sont battus en brèche par des schémas de type ternaire, la tripartition du misilienne, oratores, belatores, laboratores, et surtout par l'adjonction d'une catégorie moyenne intermédiaire, maiores, médiocres et minores, ou pluralistes, les états du monde. Cette évolution des structures mentales est étroitement liée à l'évolution économique et sociale et surtout au développement de la société urbaine. Les médiocres sont les classes moyennes. Le phénomène essentiel devient la société des vivants et la société des morts. Du XIe siècle au XIIIe siècle, la société médiévale récupère progressivement ses morts. Les ordres religieux favorisent particulièrement cette évolution. Les clunisiens au XIe siècle, les cisterciens et les ordres mendiants au XIIe siècle. Au XIe siècle, Cluny commémore les défunts le 2 novembre. Josual de la Vita, Odilonis, lit cette action de Cluny à une préfiguration du purgatoire. Histoire du clunisien revenant de Jérusalem et jeté par la tempête sur l'école de Sicile, le Stromboli, purgatoire sans en porter le nom. Au XIIe siècle, des cisterciens mettent au point la nouvelle géographie de l'au-delà. Pseudo-Bernard, Hélinan de Froidmont, Césaire de Estargbach, les ordres mendiants font triompher le purgatoire. Dans le sermon, les exemplats, dans la confession, les manuels des confesseurs, et dans la mort, les testaments. La chrétienté se réorganise de part et d'autre de la mort grâce au purgatoire, lieu de rencontre des vivants à mémoire allongée et des morts d'avenir. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.